Eroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Merci d'écouter VOA Afrique, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 juillet 2016, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson à la une ce matin.
Suite de la convention démocrate à Philadelphie, hier soir, le président Barack Obama a pris la parole pour soutenir son ancienne secrétaire d'État.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Au Mali, le djihadiste Mahmoud Bari, dit Abou Yehiya, arrêté mardi dans le centre du pays, a été transféré à Bamako.
L'opposant congolais Étienne Tshisekedi est rentré à Kinshasa mercredi après-midi, après 2 ans passés en Belgique pour raisons de santé.
Kinshasa est entre les mains du changement et que l'arrivée de Tshisekedi donne un espoir à la population sur l'ensemble du pays.
Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe s'en est pris violemment hier aux manifestants contre son régime. Et ne manquez pas l'espoir et l'économie, c'est en fin d'édition. Mais d'abord, le journal. Voilà, l'ONU a lancé hier un appel d'urgence pour que la communauté internationale accorde plus d'attention à la crise dans la région du lac Tchad. Plus de détails avec vous, Eric Manirakiza.
Au-delà d'une question sécuritaire, les exactions de Boko Haram constituent une catastrophe humanitaire selon l'ONU. Cette crise est particulièrement aiguë dans l'État nigérien de Borno où 244 000 enfants souffrent de malnutrition sévère. Cette crise est négligée, a affirmé Stéphane O'Brien, chef des opérations humanitaires. Il a déclaré que sur plus de 279 millions de dollars promis au Nigeria pour 2016, seulement 28% ont été financés jusqu'à maintenant. Monsieur O'Brien a ainsi demandé aux donateurs d'augmenter l'aide pour renforcer la capacité d'action sur le terrain. La région du lac Tchad est soumise aux attaques régulières de Boko Haram. 2,8 millions de personnes ont fui, tandis que 9 millions sont dans le besoin de l'aide, dont 7 millions au Nigeria. Et Médecins sans frontières a lancé plusieurs appels pour secourir quelques 500 000 personnes qui ont besoin d'une aide d'urgence dans le nord-est du Nigeria.
Des milliers d'enfants ont été détenus et souvent torturés dans le cadre d'opérations menées contre des groupes extrémistes contre Boko Haram, comme Boko Haram au Nigeria ou l'État islamique en Irak et en Syrie, selon Human Rights Watch. C'est dans un rapport publié aujourd'hui.
Un RDC du nouveau sur la condamnation de l'opposant Moïse Katumbi à 3 ans de prison. La présidente du tribunal qui avait prononcé la sentence dit avoir été obligée de condamner Moïse Katumbi en vue d'obtenir son inéligibilité. Elle a dénoncé des pressions exercées sur elle par des autorités de la RDC en vue d'écarter cet opposant de la présidentielle censée avoir lieu à la fin de cette année.
Mahmoud Bari, dit Abou Yehiya, le chef d'une unité du groupe djihadiste malien en Sardine, arrêté mardi dans le centre du Mali où opère son organisation, a été transféré dans la capitale Bamako, où il doit être entendu par la police judiciaire. Mahmoud Bari a été arrêté mardi après-midi par les forces spéciales de la sécurité d'État entre les localités de Nampala et Dogofri, dans la région de Ségou.
Voilà, le président zimbabwéen Robert Mugabe s'en est pris violemment hier aux manifestants contre son régime, aux anciens combattants et aux ambassades étrangères. Arjuma Compaoré, il a aussi proféré des menaces de représailles.
Tous ces mawariris, je veux les mettre en garde très fermement, a déclaré Robert Mugabe dans un discours de 45 minutes devant des milliers de partisans à Harare. La ZANU-PF ne tolérera pas ces bêtises bâties sur la religion, en référence au pasteur Evan Mawarire, chef de file de la Fronde citoyenne. Par une menace à peine voilée, M. Mugabe dit savoir comment gérer ses ennemis. Il s'en est pris aussi à ses alliés traditionnels, les anciens combattants qui ont publié une déclaration dénonçant l'attitude dictatoriale de M. Mugabe en promettant de ne pas le soutenir en 2018. Le chef de l'État a annoncé que son parti enquêtait pour identifier les personnes à l'origine de cette déclaration et promet une punition sévère. Conséquence, le porte-parole des anciens combattants Douglas Mahiwa a été aussitôt convoqué par la police. Enfin, l'homme fort de Harare accuse les ambassades étrangères de l'ingérence dans les affaires de son pays et prévient qu'elles feraient mieux de cesser.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Turquie, la purge continue après le coup d'État raté du 15 juillet. 149 généraux et amiraux ont été limogés de l'armée turque pour leur implication présumée dans ce putsch manqué. Jacques Aristide.
Un conseil militaire suprême doit se tenir aujourd'hui, jeudi à Ankara, en présence du Premier ministre Binali Yildirim et la haute hiérarchie militaire pour procéder à un vaste remaniement de l'armée. Hier, mercredi, 87 gradés de l'armée de terre, 30 de l'armée de l'air et 32 de la marine ont été limogés pour complicité dans la tentative de coup d'État. Depuis le putsch raté du 15 juillet, 178 généraux avaient été placés en garde à vue, soit la moitié des généraux et amiraux de l'armée turque, la plus importante en nombre de soldats après les États-Unis. Pour justifier cette purge, le ministre de l'Énergie et gendre du président Recep Tayyip Erdogan affirme que les partisans de Fethullah Gulen avaient infiltré la hiérarchie militaire. M. Gulen, le prédicateur en exil aux États-Unis et ancien allié du président turc, est accusé d'avoir fomenté le coup, ce qu'il rejette catégoriquement.
Ici aux États-Unis, la justice a abandonné hier des poursuites contre tous les policiers impliqués dans l'homicide de Freddie Gray. Freddie Gray, c'est ce jeune noir mortellement blessé l'an dernier dans un fourgon de police à Baltimore. Cette dernière décision risque d'accroître un peu plus les tensions raciales déjà très vives ici aux États-Unis. John Lindon.
Aucun des policiers initialement poursuivis n'aura donc été condamné dans cette affaire qui avait déclenché de violentes émeutes dans Baltimore, ville portuaire de l'Est américain, et pris une dimension nationale aux États-Unis. Après les émeutes de Ferguson à l'été 2014, l'affaire Freddie Gray, qui avait éclaté au printemps 2015, était devenue pour beaucoup le symbole des violences policières envers la communauté noire. Freddie Gray, un jeune noir de 25 ans, avait été installé dans un fourgon de police le 12 avril 2015 pour être amené au poste. Il a subi, dans des circonstances qui n'ont jamais été clairement établies, une fracture des vertèbres cervicales lors du transport avant de succomber à ses blessures le 19 avril.
Fin de ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Page spéciale de la Convention des démocrates à Philadelphie. Le président américain Barack Obama s'est adressé hier soir à la Convention pour vanter les qualités de son ancienne secrétaire d'État et souligner les insuffisances de Donald Trump, l'adversaire de Hillary Clinton à la présidentielle de novembre prochain. Compte rendu de l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Idrissa Sedoudia.
I love you back.
Les délégués ont ovationné debout M. Obama, dont c'était le dernier discours en tant que président devant une convention de son parti. M. Obama a d'emblée reconnu les réalités auxquelles l'Amérique est confrontée de nos jours. Anxiété, blocage politique à Washington, préoccupation sur les divisions raciales, choc et tristesse après la folie d'Orlando ou Nice. L'existence encore en Amérique de poches qui ne sont jamais relevées des fermetures d'usines et où les familles se sentent oubliées et se demandent si leurs enfants auront jamais les mêmes opportunités. Malgré tout, Barack Obama s'est voulu optimiste. Ce que nous avons entendu à Cleveland la semaine dernière n'est pas particulièrement républicain et ce n'est pas assurément du conservatisme. Ce que nous avons entendu était une vision profondément pessimiste d'un pays où nous nous tournons les uns contre les autres et tournons le dos au reste du monde. Aucune solution n'a été proposée pour les problèmes pressants de notre pays. Tout simplement encourager le ressentiment et le blâme et la colère et la haine. Et ce n'est pas l'Amérique que je connais.
And that is not the America I know.
Parlant de l'enjeu de cette présidentielle de novembre 2016, Barack Obama a souligné:
Nothing truly prepares you for the demands of the Oval Office.
Rien ne vous prépare réellement aux exigences du bureau ovale. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, mais tant que vous n'êtes pas assis à ce bureau, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend quant à la gestion d'une crise mondiale ou à l'envoi de jeunes gens au combat. Pour Barack Obama, Hillary Clinton a eu, pour ainsi dire, son baptême du feu. Elle était dans la salle où elle a été partie intégrante de ses décisions et c'est ce qui est en jeu. Et même au milieu d'une crise, elle écoute les autres et garde son calme et traite tout le monde avec respect. Et aussi sombre que puissent être les perspectives et quel que soit le nombre de gens qui tentent de la battre, elle ne se décourage jamais, a déclaré le président.
That is the Hillary I know.
C'est la Hillary que je connais, c'est la Hillary que j'ai appris à admirer. C'est pourquoi je peux dire avec confiance qu'il n'y a jamais eu un homme ou une femme plus qualifié que Hillary Clinton pour la présidence des États-Unis d'Amérique. Hillary Clinton, a-t-il poursuivi, finira le travail contre le groupe État islamique déjà aux abois. Et elle le fera sans recourir à la torture ou interdire des religions entières d'accès aux États-Unis. Il a ridiculisé M. Trump, qui suggère que l'Amérique est faible, et fait l'éloge de Vladimir Poutine et de Saddam Hussein. Presque tous les pays du monde savent que l'Amérique est plus forte aujourd'hui et plus respectée qu'il y a 8 ans. L'Amérique est déjà grande et elle est déjà forte, et je vous assure que notre force et notre grandeur ne dépendent pas de Donald Trump. Madame Clinton l'a rejoint sur le podium après son discours. Idrissa Seludia à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Et puis cette élection présidentielle intéresse au-delà des frontières américaines. Le National Democratic Institute a donc convié pendant la convention démocrate plusieurs acteurs de la vie politique africaine. Le Camerounais Christopher Fomugno est le directeur Afrique du NDI.
Effectivement, le NDI a invité plus de 400 personnalités à travers le monde, donc 50 personnalités africaines, des chefs de partis politiques, des mouvances présidentielles comme de l'opposition, pour qu'ils viennent vivre en direct cette convention, pour s'en inspirer, pour voir effectivement comment évoluent les processus politiques ici aux États-Unis, mais aussi pour échanger entre eux, avec leurs collègues, venant des autres horizons, ainsi qu'avec les acteurs politiques américains. C'est un investissement qui devrait enrichir, en quelque sorte, le processus politique sur notre continent.
Observer un processus politique en marche ici, c'était le but, vous l'avez dit. Comment est-ce que vos différents participants ont réagi, par exemple, à cette histoire de scandale d'email au sein du Parti démocrate ?
Vous savez, les participants sont venus avec beaucoup de questionnements. Surtout par rapport aux primaires qui se sont déroulées jusqu'à présent dans les deux grands partis politiques de la place, du côté du Républicain comme du côté de Hillary. Nous avons ressenti lors des panels que nous avons organisés que nos participants sont un peu anxieux.
Parmi donc les invités du National Democratic Institute, l'opposant congolais Vital Kamerhe.
C'est une expérience qui va certainement enrichir la nôtre en matière des primaires, en matière des discussions et des discours pour convaincre le peuple pour avoir ses préférences. Et c'est que nous sommes en train de vivre ici.
Alors justement, en RDC, vous êtes en pleine année électorale, une année importante avec toutes les tensions que ça implique au niveau politique. Comment est-ce que vous pouvez vous inspirer et de quoi vous pouvez vous inspirer ici ?
Comparaison n'est pas raison. Nous devons dire qu'en République démocratique du Congo, nous sommes très loin de la réalité américaine. Nous devons d'abord mobiliser le peuple congolais pour obtenir réellement, soit par les dialogues, c'est-à-dire la voie pacifique, soit par les marches à travers les rues des différentes villes de la République démocratique du Congo, obtenir les calendriers électoraux. Mais nous disons qu'il y a aussi moyen de faire les deux. Mais nous privilégions dans tous les cas de figure la paix. Parce que nous estimons que le peuple congolais a droit à des élections libres, démocratiques et transparentes. Notre constitution ne donne aucune autre possibilité d'arriver le 19 décembre 2016 à minuit sans élection, sans président élu. Voilà pourquoi nous disons, assister au congrès des démocrates américains, c'est une très bonne chose. Ça va nous inspirer surtout du côté de l'organisation des congrès, du côté des discours, du côté des différents panels, tous les thèmes qu'on développe ça et là, mais il faut les adapter aux réalités de notre pays. Mais au-delà de ça, nous devons savoir que pour nous, avant de parler de cette étape et de désignation des candidats, il y a une étape cruciale, comme un chasseur qui ne peut pas partager le gibier qu'il n'a pas encore abattu. Donc nous devons d'abord obtenir les calendriers.
Voilà, Vital Kamerhe était au micro de Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale à Philadelphie. Demain, lors de la dernière journée, la candidate Hillary Clinton prendra la parole. C'est tout donc pour cette page spéciale consacrée à la Convention des démocrates.
Pour la première fois de son histoire, les États-Unis ont une femme candidate à la tête d'un des deux grands partis politiques. Mais les symboles et les poids lourds démocrates suffiront-ils pour convaincre les sceptiques ? Pourquoi cette fronde persiste-t-elle au sein des pro-Sanders ? Washington Forum vous emmène à Philadelphie, en Pennsylvanie, au cœur de la Convention démocrate, avec tous nos invités. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagassi Koura de retour avec vous sur VOA Afrique en direct de Washington. Nos dossiers du jour. D'abord en RDC, l'opposant Étienne Tshisekedi est rentré à Kinshasa hier après-midi. Après 2 ans passés en Belgique pour raison de santé, de l'aéroport international de Ngili à la résidence du président de l'UDPS, des milliers de Kinois, militants des partis membres du Rassemblement de l'opposition ou autres curieux, ont accompagné pendant 5 heures de temps le cortège de Tshisekedi scandant des chansons à son nom. Reportage de Walter Runkui de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'accueil du président de l'UDPS est un pari réussi pour les rassemblements des forces acquises à l'alternance. Une foule compacte a accompagné Étienne Tshisekedi de l'aéroport international de Ngili jusqu'à sa résidence dans la commune de Limété. Le cortège qui avait quitté l'aéroport vers 15h30 n'est arrivé à Limété qu'autour de 20h30. Un motif de satisfaction pour Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS.
Vraiment un accueil délirant, digne d'un fils du pays que tout le monde aime. On s'attendait à ça, parce que moi-même, quand j'étais dernièrement à Bruxelles, je lui ai dit que la population vous attend.
Et le rassemblement s'est aussitôt lancé à la préparation du meeting du dimanche 31 juillet. Joseph Olengankoy est cadre du rassemblement.
Les impressions, vous les voyez à travers la mobilisation populaire. Kinshasa est entre les mains du changement et que l'arrivée de Tshisekedi donne un espoir à la population sur l'ensemble du pays. Fondamentalement, nous allons faire une démonstration pour montrer au monde, à commencer ça part à la capitale, qui est entre les mains de l'opposition. Le dimanche 31, il y aura une mobilisation générale. Lors de ce meeting, le peuple il va prouver au monde, notre peuple veut les changements.
L'arrivée de Tshisekedi est une lueur d'espoir pour Jonas Kitambala, un militant rencontré sur le boulevard Lumumba.
Moi, je ne suis pas des leaders, je ne suis pas non plus sympathisant des leaders, mais je suis venu. On ne m'a rien donné, j'ai payé le transport de chez moi jusqu'ici. Je pense que c'est le cas aussi pour les autres. L'arrivée de M. Étienne Tshisekedi nous donne l'espoir pour beaucoup de choses. La situation politique actuellement dans notre pays reste à désirer. Nous pensons que son arrivée va décanter beaucoup de problèmes.
Sa venue remonte votre morale?
Évidemment, effectivement.
Une nouvelle impulsion sera donnée au combat politique, dit le ministre honoraire des Transports, Eva Mwakasa, qui est aussi cadre du rassemblement.
Je constate que le président Étienne Tshisekedi demeure le leader historique de l'opposition. Vous-même, vous avez vu l'impact populaire que son arrivé à créer. Nous l'avons reçu à l'aéroport. Nous allons bientôt donner une nouvelle impulsion au combat politique que nous avons toujours mené, à savoir le respect de la Constitution. L'avenir de la nation est en danger. Nous pensons que nous, les leaders politiques de ce pays, nous devons nous comporter en homme d'État. Surtout nous, les leaders politiques de l'opposition. Tout va être mis en œuvre pour que nous puissions continuer à sceller l'unité de l'opposition. Et je pense que la présence du président Tshisekedi va nous aider à sceller l'unité de l'opposition pour que nous puissions répondre aux aspirations de notre peuple, c'est-à-dire le respect de la Constitution et l'organisation de l'élection présidentielle au cours de cette année pour garantir une alternance crédible au pouvoir.
Tel que vous le voyez là, physiquement, il est en forme?
Si quelqu'un a fait le voyage de Bruxelles jusqu'ici, nous sentons qu'il est en forme et donc nous ne pouvons que continuer à prier Dieu pour qu'il reste en forme jusqu'à ce que nous puissions obtenir la victoire finale, c'est-à-dire l'alternance crédible dans notre pays.
Le rassemblement des forces acquises au changement a donc ses yeux rivés sur le meeting du 31 juillet. Kinshasa, Walter Couille de Top Congo pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Burkina Faso, le journaliste Newton Ahmed Barry, cofondateur du bimensuel L'Événement, élu président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a prêté serment ce mercredi dans la soirée pour le nouveau patron des élections au Burkina Faso. La priorité reste le vote des Burkinabés de l'étranger. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wonogo.
Juste après avoir prêté serment, le nouveau président de la CENI a dévoilé le grand challenge qu'il entend relever. On écoute Newton Ahmed Barry.
Il y a le gros morceau qui consiste à préparer, à réussir le vote des Burkinabés de l'étranger pour 2020. La CENI est une ingénierie électorale. Et vous savez bien qu'il y a un engagement politique assez fort sur cette question-là. Et donc, il n'y a pas de doute que l'élection 2020 devrait inclure les Burkinabés de l'extérieur. Quand vous avez une diaspora aussi importante comme la nôtre, il y a des questions essentielles qu'il faut gérer pour ne pas que, évidemment, l'élection extérieure puisse créer des troubles d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est un élément fondamental. Deuxième élément, c'est le nombre de pays. Et enfin, c'est le ratio, c'est-à-dire à partir de combien de Burkinabés dans un pays on va installer ou on va faire voter les Burkinabés de l'extérieur. Ça, ce sont des questions techniques, mais également des questions stratégiques qu'il va falloir évidemment aplanir avant d'aller en 2020.
À cette cérémonie de prestation de serment des commissaires de la CENI, les journalistes avaient le sourire large. Et pour cause, le nouveau président est un confrère. On écoute Osé Lassane Ouédraogo, journaliste au quotidien Sidoya.
Je pense que ça rehausse l'image du corps du journaliste. Si on voit depuis sous Blaise Compaoré, un journaliste, Luc Adolphe Siaou, a été porté à la tête du Premier ministère. Ensuite, il y a Serif Sy, journaliste qui a été porté à la tête du CNT. Ensuite, ce gouvernement même, il y a le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui est journaliste. Il y a le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Djangounou, qui est journaliste. Et voici encore qu'un journaliste est porté à la tête de la CENI. Ça montre quand même que le métier est pris au sérieux par les autorités et que vraiment le métier de journalisme est respecté au Burkina Faso.
Germain Nama, qui a travaillé pendant longtemps avec Newton Ahmed Barry au journal L'Événement, nous donne quelques traits du caractère du nouveau président.
D'abord, du point de vue du métier, c'est un journaliste extrêmement brillant, ça c'est vrai. D'un point de vue du travail, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et je pense que cet aspect-là apportera quelque chose à la commission. Maintenant, nous sommes dans un milieu où il faut organiser les hommes, ce n'est pas facile. Chacun a son caractère. En tant que journaliste, nous en tirons légitimement fierté parce que tout de même, c'est une promotion qui a été faite à l'endroit d'un confrère. Bon, maintenant, la question se pose de savoir est-ce que le profil de journaliste sied avec justement ce métier. Et comme vous le savez vous-même, on dit que le journalisme mène à tout.
Zoumana Bounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou. Sur 102.4 FM.
La France est aujourd'hui le pays d'Europe le plus meurtri par les attentats terroristes. Pour comprendre comment elle est devenue le pays le plus ciblé par les djihadistes, Anastasie Toudies a joint à Paris Anne Diudicelli. Elle est directrice de Terrorisque, un cabinet d'analyse et de stratégie sur les risques politico-sécuritaires.
Contrairement, par exemple, à l'Espagne ou l'Italie, la France est dans la coalition contre l'État islamique, non seulement en Irak, mais aussi en Syrie. Non seulement elle le revendique, mais véritablement, la France définit sa participation à la coalition comme un axe majeur de politique extérieure. Et ensuite, elle joue tout à fait le jeu de l'État islamique, puisqu'à chaque fois qu'il y a un attentat, la réaction, c'est de renforcer le dispositif mis en œuvre au sein de la coalition. Et que donc, c'est sur la base des attaques et l'existence même de la coalition montée contre elle que l'État islamique peut ensuite davantage recruter et elle en fait un axe, elle, de son côté, de lutte contre les pays participant à la coalition la visant.
Que peut le politique face à cet ennemi invisible ?
Il faut déjà changer de discours. Ce n'est pas à faire un acte de transparence que de dire que nous serons bientôt encore exposés. En termes de communication politique, c'est quand même afficher une forme de faiblesse qui ne peut que susciter de nouvelles actions. Déjà, mettre en œuvre les dispositions qui ont été mises en place après rien que janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo. Ensuite, on répète les mêmes erreurs que pourtant un vrai retour d'expérience au niveau global permettrait d'éviter. C'est notamment l'expérience américaine de l'Afghanistan et de l'Irak. Le fait de ne recourir qu'aux seuls militaires et sécuritaires ne peut que contribuer à amplifier le phénomène et à exposer davantage nos pays. Il y a un travail de fond qui n'a toujours pas été fait, qui est celle de se donner les moyens de répondre à la question de comment on en est arrivé là. Et donc là, ça pose des problématiques, je dirais, culturelles, identitaires. Qu'est-ce que c'est qu'être français aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que la France, l'Europe ? Elles ont toujours été considérées comme secondaires. C'est quand même des problématiques qui auraient dû être traitées il y a 20 ans, toujours été baignées, si vous voulez, par les politiques, et qui, aujourd'hui, leur revient à la figure, alors que c'était possible à traiter auparavant. Et maintenant, on s'interroge à savoir si ce n'est pas déjà trop tard pour notre pays.
Voilà, c'était Anne Diudicelli, directrice de Terrorisque, un cabinet parisien d'analyse et de stratégie sur les risques politico-sécuritaires.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Actu- l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec John Lindon.
60 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il faudra débourser pour remettre à point la Camerco, la compagnie aérienne nationale camerounaise. C'est du moins ce qui ressort du plan de relance proposé par Boeing. Camerco devra aussi rembourser ses dettes évaluées à près de 35 milliards de francs CFA. La compagnie devrait également acquérir 9 aéronefs d'ici 2019 pour desservir un total de 27 destinations. La Côte d'Ivoire, plus grand producteur mondial de cacao, va probablement voir ses récoltes diminuer pour la période 2016-2017 pour la deuxième année consécutive. Le pays, du fait des intempéries, ne devrait produire que 1,65 million de tonnes pour la saison qui commence le 1er octobre prochain, selon une source familière des prévisions du gouvernement. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce ne veut pas polémiquer avec Donald Trump, candidat républicain à la Maison-Blanche, à propos d'une éventuelle sortie des États-Unis de l'OMC. « Je n'ai pas l'intention d'amorcer une discussion à ce sujet », a déclaré mercredi à Genève le Brésilien Roberto Azevedo. Donald Trump a en effet évoqué, dans une interview diffusée dimanche dernier, une possible sortie des États-Unis de l'OMC s'il était élu président.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique, en direct de Washington, c'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
On commence par du football, hein. Mazembe dans le dernier carré de la Coupe de la Confédération.
Oui, le tout-puissant Mazembe, champion d'Afrique en titre, s'est qualifié pour les demi-finales à Lubumbashi. Le club congolais est en effet certain de finir premier ou deuxième du groupe A grâce à sa victoire hier 1-0 face au Mouloudia Béjaïa. Le Zambien Rainford Kalaba a fait la différence sur un tir à bout portant. Les Algériens de Béjaïa disputeront l'autre place en demi-finale au Ghanéen du Medeama, vainqueur mardi 3-1 des Young Africans de Tanzanie.
Un mot du mercato.
L'attaquant international guinéen de Bastia, François Kamano, doit s'engager avec Bordeaux sous réserve de la signature de tous les documents administratifs et de la visite médicale. La durée du contrat ainsi que le montant du transfert n'ont pas été révélés, mais plusieurs sources parlent d'une somme de 2,5 millions d'euros plus des bonus. On rappelle que Kamano est un joueur de 20 ans. Il est arrivé à Bastia en 2013 en provenance du club guinéen de Satellite FC. C'est un joueur de couloir qui vient de disputer 47 matchs en deux saisons sous le maillot du Sporting Club de Bastia. Il a inscrit 7 buts.
Suite du championnat d'Afrique des nations de basketball de moins de 18 ans, c'est à Kigali au Rwanda.
Et le carton de ce mercredi, la RDC corrige le Bénin 120-65. Les Maliens ont giflé l'équipe du Gabon 91-38. La Tunisie domine l'Ouganda 89-73. Le Rwanda a battu l'Algérie 53-40.
Merci Nicolas.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Gardez la conversation sur notre page Facebook VOA Afrique. Merci à Anna Besson pour le suivi de l'actualité et la mise en œuvre. Un grand merci à toute la rédaction de VOA Afrique. Bagassi Koura ici à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.